Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 27 décembre 1986.
Sainte Trinité. Comme tous les la très sainte Trinité se réfléchit dans le cœur de Jésus. Et c'est pour cela que Jean, instrument de l'Esprit Saint, mais un instrument très particulier, puisqu'il est l'ami, il est le disciple bien-aimé. Quand l'instrument peut être ami, c'est assez étonnant. Parce que tout ce qu'il communique comme instrument, il le vit en premier lieu. Vous savez, c'est ce que les vieux prédicateurs ont l'habitude de dire, que lorsqu'ils prêchent une retraite, c'est à eux-mêmes qu'ils la prêchent en premier lieu. Et c'est vrai, on est le premier auditeur, sans écouter, du reste, sans écouter, ce serait très mauvais, mais on est le premier qui profite. On s'en sort très fort. Mais même quand on prêche au peuple de Dieu et qu'on doit le réveiller, on est là pour se réveiller en premier lieu. Et on doit recevoir cette prédication comme une prédication qui est faite pour nous convertir. On est l'instrument de soi-même, l'instrument de l'Esprit Saint par rapport à soi-même. Alors quand l'instrument est l'ami, vous voyez, c'est plus facile pour l'Esprit Saint. Ça va mieux. C'est moins rocailleux. Donc, quand l'instrument est l'ânesse de Balaam, c'est un peu plus rocailleux. Alors, entre l'ânesse de Balaam et Jean, il y a toutes les gammes comme instrument du Saint-Esprit. Et c'est vrai, Jean est né parmi tous les instruments de Dieu. Il est sûrement le plus proche du cœur de Jésus et de l'Esprit Saint, et le plus proche de Marie. Et donc, ce qu'il communique, il le vit. Il ne nous communique pas ce qu'il vit, il nous communique ce que Dieu veut qu'il nous communique. Mais s'il le vit, et ça, c'est une netteté quand il s'agit de Saint Jean. C'est peut-être que là, vous voyez, ce fameux problème que nous avons secoué l'autre jour et qui est si difficile, sur lequel nous reviendrons, la question du sens littéral, on devrait le regarder par rapport à Jean, parce que ça éclairerait toute l'écriture. Tandis que quand vous le regardez par rapport à Abraham, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que par rapport à Jean, c'est beaucoup plus facile. Quel est le sens littéral de Jean? Quel est le sens littéral quand Jean nous raconte tel discours de Jésus? Parce que c'est la grosse question. C'est la question du sens littéral. Et c'est pas commode à bien préciser. Parce qu'il semble bien qu'à travers les différents documents du magistère, et c'est ça que je voudrais qu'on précise, à travers les différents documents du magistère, il y a un peu de flottement. Et le théologien doit être sensible à ce flottement. Et puis on doit voir si ce que saint Thomas nous dit sur le sens littéral est conforme à ce que dit l'Église actuellement. Parce que saint Thomas a parlé du sens littéral. Et très souvent, vous savez bien, les exégètes d'aujourd'hui, je ne dis pas ce que l'Église dit, mais ce que tel ou tel exégète a dit, le sens littéral se réduit au sens historique. Réduire le sens littéral au sens historique, je crois que c'est du positivisme. C'est pas juste, il faut réfléchir là-dessus, on y reviendra. Mais il faudra revenir à saint Jean là-dessus. Parce que sûrement, l'évangile de Jean représente un sommet, et un grand sommet, pour toute la révélation. Alors, dans l'évangile de Jean, je vous disais tout à l'heure en terminant, il y a quelque chose auquel on doit être particulièrement sensible aujourd'hui. C'est que Jean est le prophète de l'unité. Alors, ce serait intéressant, ça. C'est le prophète de l'unité de l'Église. C'est le grand théologien d'unité de l'Église. Ézéchiel est le grand théologien de l'unité. Et c'est très important toujours de s'y rappeler, de s'y rapporter, parce que Ézéchiel veut l'unité. Vous savez bien, le royaume du Nord et le royaume du Sud se sont séparés avec Salomon. On le verra. Au moment de la gloire, et toutes les divisions qui existent dans le peuple d'Israël sont préfiguratives des divisions au sein de l'Église. C'est très curieux. Je n'ai pas vu ça au point de vue théologique ou œcuménique. Je crois qu'on devrait le faire. Ça éclairerait énormément. Oui, c'est quand Salomon atteint une gloire trop humaine, trop grande, qu'il y a une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors, est-ce que la division du royaume du Nord et du royaume du Sud représente la séparation de l'Église orthodoxe de l'Église catholique? Ça ne m'étonnerait pas. Ce sont deux royaumes qui demeurent. Dirait-il que ça a existé? Et après l'exil de Babylone, Ézéchiel, lui, prophète de l'unité, proclame que c'est insupportable pour Dieu, cette division. Cette division qui s'est faite par les hommes et qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Aucune division n'est l'œuvre de Dieu. Aucune. Toute division est l'œuvre des hommes. C'est la zizanie, c'est le démon et les hommes qui coopèrent. Et Ézéchiel alors veut reprendre tout. Il a de ses comparaisons à Ézéchiel. C'est un prophète extraordinaire, Ézéchiel. Il avait une imagination prodigieuse. Dieu s'est servi. C'est vrai, c'est Isaïe, c'est le prophète beaucoup plus doctrinal, tandis qu'Ézéchiel, c'est des images étonnantes. Les ossements d'Ézéchiel, vous voyez ça, la dispersion. C'est vrai que le cadavre, c'est une dispersion. Et au bout d'un certain temps, quand vous laissez le cadavre à son propre mouvement, il n'y a plus que des ossements à droite et à gauche. Parce qu'on est séparé de l'âme, il n'y a plus d'âme, alors il n'y a plus d'unité. Il faut redonner souffle, et il nous montre ça, comment l'esprit redonne souffle, et il redonne quelque chose de vivant. Je crois que Jean est aussi le théologien de l'unité, et le prophète par le fait même de la nouvelle unité. Il y a plusieurs lieux dans un genre, on voit bien cela. Et ce serait très important pour nous de faire la théologie de l'unité selon saint Jean. Vous voyez, Jésus qui dépasse les frontières. Les frontières du peuple d'Israël, la Samaritaine. La Samaritaine, je crois que c'est le premier enseignement du Christ pour faire comprendre ce que c'est que l'unité. Mais c'est assez extraordinaire. La Samaritaine, c'est la sœur séparée. Et la sœur séparée, pécheresse. Et Jésus aurait pu dire tout simplement, c'est pas étonnant que tu es pécheresse, tu as quitté Jérusalem. Un bon curé dirait ça. C'est pas étonnant que tu es pécheresse, tu as quitté la paroisse. Tu as été à côté. Est-ce que tu as cru que c'était mieux? Alors tu as quitté la paroisse, donc tu as perdu la grâce de l'unité. Jésus ne dit pas ça du tout. Jésus prend l'initiative. Alors que c'est très rare qu'on prend l'initiative. Hein. Il a voulu nous quitter. Eh bien, oui. C'est très bien ce qu'on dit. Débrouillez-vous, on ne va pas dire autre chose. Allez, débrouillez-vous. Et Jésus ne fait pas ça. Jésus prend l'initiative. Il prend l'initiative. Et il se fait mendiant. C'est encore mieux. Jésus affirme l'unité vient des Juifs. Voyez, à la fois une audace de miséricorde et une rectitude. Ça fait penser au Saint-Père qui rassemble tous les chefs religieux. Une audace et une rectitude. Le salut vient des Juifs. Le salut vient de Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Et le Saint-Père rassemble tous les chefs religieux pour qu'ils entendent ça. Il ne peut pas y avoir d'autre sauveur que Jésus. Et on est très heureux d'être ensemble, de prier et d'adorer le même Dieu. Vous voyez, et c'est l'adoration qui fait l'unité. Il n'y a pas d'autre théologie de l'œcuménisme que l'adoration. Et une adoration en esprit, en vérité, c'est la première chose qu'on doit faire. Et pour ça, il faut que les chrétiens et les catholiques adorent. On fait des discussions. Jésus ne discute pas avec les Samaritains. Non, il ne discute pas. Il a discuté avec Nicodème. D'une certaine manière, il l'a enseigné. Mais Nicodème, c'est à l'intérieur de l'Église. Tandis que Samaritaine, c'est à l'extérieur. La sœur séparée. Jésus montre que l'unité ne peut se faire que par une intériorité plus grande, que toute division provienne d'un aspect extérieur. On a identifié ce qui était intérieur, l'adoration, avec les gestes extérieurs. Positivisme religieux, c'est ça. Alors on met un absolu dans la liturgie, dans le chant, dans la musique. Et c'est vrai, la discussion a été là. Faut-il adorer Jérusalem? Faut-il adorer dans le temple? Faut-il adorer sur les hautes montagnes? Et Jésus dit pas du tout. Dieu est esprit, il veut des adorateurs en esprit en commun et en esprit en vérité. C'est par l'intériorité qu'on retrouve l'unité. Il n'y a pas d'unité en dehors de l'intériorité. Et pour l'unité religieuse, c'est l'adoration en esprit en vérité. C'est merveilleux ce texte pour comprendre la soif du cœur de Jésus de l'unité. Jésus ne peut pas supporter que la Samarie vive à côté et soit, malgré leur bonne volonté, la Samaritaine avait très bonne volonté quand elle était petite, quand elle était jeune. Très bonne volonté. Il y avait quelque chose de brisé. Et c'est à cause de cette brisure qu'elle n'a pas pu rester dans la ligne droite. Là, il y a quelque chose de très juste. Hein. L'aspect fondamental de notre vie, c'est l'attitude religieuse, c'est l'adoration. Quand il y a une fêlure du côté de l'adoration, on voit les conséquences, les manifestations. Et Jésus remonte à la source. Ça, c'est la psychanalyse chrétienne. Pas du tout Freud, la psychanalyse chrétienne. Et c'est très très fort. Quand Jésus fait ça, c'est une méthode extraordinaire. Quand Jésus remonte, l'état de division, il le constate. Et puis, il suit la malade. Il la laisse prendre ses initiatives. Il la suit. Au point de départ, c'est lui qui a pris l'initiative, fallait bien. Parce que la Samaritaine serait restée dans son cocon. En chantant une petite chanson moderne. Très bien, c'est bien évident quand elle est en corvée d'eau, en plein midi. Vous comprenez bien, elle n'a qu'une seule manière de se réconforter un peu le cœur, c'est de fredonner sa petite chanson à elle. Elle est seule, cette femme. Elle n'aime plus. Elle est réduite à la corvée d'eau en plein midi. Et Jésus sait bien cette détresse. Oui, cette femme, elle représente l'humanité au moment du jugement. Et l'humanité sera réduite à la corvée d'eau en plein midi avec ses petites chansons. En fredonnant ça, on voit très bien chacun écoutant sa petite chanson. L'humanité réduite à la corvée d'eau en plein midi. Et Jésus dira, cette humanité, donne-moi à boire. Et l'humanité ne comprendra pas ce que ça veut dire. Donne-moi à boire, c'est Jésus qui réclame l'adoration, qui réclame l'amour. Le premier amour, c'est l'adoration. L'amour fondamental, c'est l'adoration. On commence à aimer Dieu et à aimer Jésus en l'adorant. Et vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu si vous ne l'adorez pas. Et c'est pour ça qu'on doit toujours commencer par l'adoration.
Esprit en vérité, et l'adoration nous conduit à découvrir
immédiatement. Elle adore. Et alors, elle quitte ses faux maris. Elle se met dans la vérité. Par l'adoration, on touche le roc. Et tout le sable mouvant, toutes les choses secondaires, toutes les choses fausses, tout le sable mouvant qui recouvre des tas de choses dans notre vie, tout ça tombe et on touche le roc. Et en touchant le roc, alors on se remet dans la vérité. Et cette femme se remet dans la vérité en face de Jésus. Et elle découvre le prophète. C'est merveilleux, ça. Voyez la relation qui va se faire avec Jésus directement. Et elle devient immédiatement apôtre. La sœur séparée qui devient apôtre et qui ramène tous les Samaritains. Voyez la fécondité de l'unité. Cette unité qui se rétablit par le Christ immédiatement. À cette fécondité merveilleuse. Je crois que c'est le premier geste du Christ au-delà des barrières, des conventions. Un juif ne parle pas à une samaritaine. Jésus brise ça. Second dépassement, c'est la prière de l'officier royal de Capharnaüm. Là encore, l'officier royal de Capharnaüm, il n'a rien à faire avec le peuple d'Israël. Rien du tout. Et Jésus est venu pour les brebis d'Israël. En premier lieu. Et s'il est venu aussi pour les autres, la vie apostolique ne peut pas nous cantonner dans un pays. Elle ne peut pas nous cantonner, même pas, vous voyez, dans les limites de l'Église. On doit toujours avoir une âme catholique, donc universelle. Et quand nous rencontrerons des officiers qui n'ont rien à faire avec l'Église catholique et qui viendront nous supplier de les aider, nous ferons comme Jésus. Et là, c'est pas Jésus qui prend l'initiative, c'est les misérables qui prennent l'initiative. La misère conduit vers le prophète, la source. Troisième dépassement, je crois que c'est les trois grands dépassements pour construire l'unité. Le paralytique à la piscine de Bethsaida. Aussi, c'est quelque chose de très grand. Ce paralytique, il ne demande rien, c'est Jésus qui prend l'initiative. Et Jésus lui demande, veux-tu guérir? Et cet homme est tellement persuadé que c'est impossible. Il lui dit toutes les impossibilités dans lesquelles il est. Il ne dit pas à Jésus, oui, je désirais être guéri. Pas du tout. C'est aussi très intéressant, ça. Vous voyez, l'unité peut être tellement loin du cœur de certains qu'il faut avoir ses initiatives comme Jésus. Deux initiatives pour ramener les brebis séparées, pour réintroduire ceux qui sont des excommuniés, ceux qui sont des marginaux. La piscine de Bethsaida, c'est la théologie des marginaux. Là, c'est très net. C'est... D'habitude, on voit très bien, ces marginaux n'entrent pas dans l'Église. C'est pas fait pour tout l'Église, parce que ce sont des gens qui sont en tenue du dimanche. Et si on n'est pas en tenue du dimanche, on ne peut pas entrer dans l'Église. C'est impossible. Nous, notre communauté, c'est les pauvres types. On voit très très bien ça. C'est constant, ça. Et Jésus va vers eux. Il ne va pas vers le temple. Et c'est toujours du sabbat, c'est encore mieux. Double dépassement du lieu et du temps. Du lieu. pas du tout dans les synoptiques, pas du tout de la même façon. Jésus n'accepte pas ces convenances, ces divisions artificielles, ces séparations artificielles. Il les accepte pas, il ne peut pas les accepter.
Cette parole est trop dure, alors que c'est la
la plus grande amour. Les misants vont et Jésus retourne vers les douze et leur dit, vous. Alors Pierre prend la parole parce qu'il sent bien que le terrain n'est pas si sûr. Et il prend la parole seul en affirmant l'unité. En affirmant son attachement. Mais c'est le rôle de Pierre d'affirmer l'unité. Hein. Surtout quand il y a des moments un petit peu durs. Et Jésus dit, au milieu de vous, il y a un démon. Et Jésus montre qu'il y en a un qui reste et qui ne devrait pas rester. Parce qu'il est en opposition. Il n'accepte pas. Et Jésus, dans sa miséricorde infinie, accepte qu'il reste. C'est très significatif, hein, ce commencement des luttes internes. C'est dit, on voit ça. Beaucoup plus difficile de lutter par rapport aux luttes internes que par rapport à la Samaritaine, à la piscine de Bethsaida. À l'officier royal. C'est beaucoup plus difficile, parce que jusqu'où doit aller l'unité formulée. Jésus aurait pu très bien dire, eh bien pourquoi, qu'est-ce que vous avez dit du reste? Il a écouté leur objection. Il a écouté, mais il a été jusqu'au bout. Vous voyez la différence de réponse de Jésus à Nicodème, quand Nicodème ne comprend pas. Et la réponse, ici, dans ce chapitre 6, quand on comprend matériellement ce que dit Jésus, à Nicodème, Jésus donne une explication. Et aux autres, Jésus continue de réaffirmer. C'est toujours la même chose, c'est qu'on ne doit jamais imiter matériellement Jésus. Dans certains cas, on doit donner des explications. Jésus fait ça avec Nicodème. Nicodème est une âme de bonne volonté. C'est un intellectuel, un théologien de très bonne volonté. Et Jésus lui donne des explications. Parce qu'il doit y avoir une théologie, celle de Jésus. Tandis que vis-à-vis de ceux qui se mettent à murmurer, de se mettre à qui considèrent que cette parole est trop dure, et qui commencent à avoir une mauvaise volonté, Jésus continue d'affirmer, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui ne mangera pas ma chair n'aura pas la vie en lui. Et Jésus reprend avec force. Donc Jésus maintient le scandale. Dans certains cas, il le dénoue et dans d'autres cas, il le maintient. C'est là où on doit essayer de comprendre justement cette manière dont Jésus, qui est le bon pasteur, qui veut l'unité du troupeau, quand il s'agit de quelque chose d'aussi fondamental que l'Eucharistie, ah, Jésus est net. Ils partiront s'il faut qu'ils partent. Il ne va pas courir après, non. Et Jésus tend la perche à Judas. S'il faut partir parce qu'il s'agit de l'Eucharistie. Et on ne peut pas faire l'unité sans l'Eucharistie. Il y a des limites, hein, à la diversité théologique. Il y a des limites. La théologie est gardienne de l'unité de la doctrine et de la foi. Pas des opinions. Oh, des opinions théologiques. Hein. Vous serez toujours des Suarez dans l'Église. Vous serez toujours des Théardiens. L'église est très très large là-dedans. Ce qu'elle veut, c'est qu'elle lui dit dans la recherche de la vérité. C'est ça qu'elle veut, et c'est ça le critère. Hein. C'est pas les conclusions. Mais c'est le désir de la recherche de la vérité, qui soit tout de suite. Tandis que celui qui est tenace dans sa conclusion, celui-là, non. Celui qui recherche la vérité, il est avec Jésus. Même si dit des bêtises, ça n'a pas d'importance, vous savez. Pour la très sainte Trinité, c'est relatif, hein. Les expressions théologiques. Pour nous, c'est très important. Mais c'est pas le mystère. Le mystère ne peut pas être adéquat à la formule. Impossible. Il faut qu'il y ait un abîme entre la formule et le mystère. Et ce que l'Église, ce que l'Esprit Saint veut, c'est que nous soyons rattachés au mystère. C'est ça la vérité. C'est le mystère qui est la mesure. Puisque le mystère, c'est la réalité. Adéquatio rei et l'adéquation autant qu'on peut, l'adéquation, la conformité à ce qu'on dit comme théologien et la réalité. La réalité, c'est le mystère. Et donc, c'est le mystère qu'on cherche à exprimer. C'est ça la bonne volonté du théologien. La bonne volonté du théologien, c'est pas du tout être cohérent avec son système. Pas du tout. Le théologien sait très bien qu'il n'y a pas de système théologique. Il y a des recherches multiples. Il faudrait regarder ici toutes ces luttes de Jésus qui sont fortes à l'intérieur du peuple d'Israël. Le chapitre 8, le sommet, je crois, de la lutte. Et voir comment Jésus a accepté de lutter jusqu'au bout. La recherche de la vérité implique une lutte. Une lutte avec un désir de chercher la vérité. Mais c'est pas du tout une fausse unité. On accepte tout ce qui est dit, tout simplement pour ne pas se disputer. Comme si l'idéal, c'était surtout de ne pas se disputer. C'est jamais l'idéal de ne pas se disputer. L'idéal, c'est la recherche de la vérité. Alors, on est devant certains qui ne veulent plus cette vérité. Et on sait très bien qu'en la recherchant, on les irrite. Ça n'a pas d'importance. Jésus affirme l'attitude du bon pasteur. Alors, voyez, avec la Samaritaine, comme c'est différent, c'est la politique intérieure. Le bon pasteur. Et Jésus donne une politique intérieure du bon pasteur. Le bon pasteur connaît ses brebis et les brebis connaissent. Ça, c'est très très grand pour comprendre le gouvernement d'Église. C'est le bon pasteur, c'est pas n'importe qui. C'est pas le chef d'armée. Le général Jephté. C'est le bon pasteur pour tous les Israélites. Ça a un sens, hein, le bon pasteur. On sait ce que c'est. Il est tout proche des brebis. Il les connaît toutes. Et l'unité implique cette connaissance du bon pasteur par rapport à ses brebis. Il les appelle par leur nom. Vous avez encore la grande prière de Jésus qui nous dit la soif d'unité. parce qu'elle se dit. On peut parler d'une unité d'enseignement. On peut parler du pluralisme de l'enseignement. On peut parler de l'unité de tous ceux qui tendent vers le même but. Les amis, idem velle, le même vouloir. Tout ça, ça peut se comprendre. Alors, on voit très bien pourquoi Jésus insiste tellement sur l'unité. Pour qu'il n'y ait pas de dispersion de force. Et pour que tous vivent pleinement le mystère du Christ. Cette unité, il faut que nous demandions à Saint Jean de la garder dans le petit groupe que Dieu s'est choisi pour être la communauté Saint Jean. Parce que il y a des unités plus ou moins profondes, plus ou moins fortes. Il y a des unités extraordinairement fortes et substantiellement fortes quand l'amour d'amitié est divin. Et je suis persuadé que Saint Jean, devant des luisants, veut une unité très très grande pour tous ceux qui sont ses fils bien-aimés. Et c'est ce que je crois, ce qu'on doit demander à la fin de cette journée à Saint Jean, qu'il réalise entre nous une unité toujours plus grande, une unité, vous voyez, qui doit se faire à l'intérieur du noviciat, à l'intérieur des années de formation, à l'intérieur de la vie apostolique, l'unité qui se fait avec nos sœurs contemplative et apostolique, unité qui n'est pas la même, qui est différente, unité avec nos oblats, unité avec nos amis, avec les familles, toute cette unité qui doit se faire selon des degrés différents, mais à l'égard des disciples bien-aimés, ce que nous voulons tous être. Il faut une unité très forte qui dépasse ce que nous pouvons réaliser psychologiquement. Et l'unité psychologique, ce serait l'uniformité. Et c'est très ennuyeux. Ça, c'est l'unité qu'on peut faire, l'uniformité. Qu'on baille tous en même temps. Ça fait une unité remarquable, ça. L'uniformité. C'est pas parce qu'on a tous le même ami qu'on doit avoir l'uniformité. Non, surtout pas. L'uniformité, c'est univoque. Tandis que l'unité, dans l'ordre de l'amour, est analogique. Elle est analogique, c'est-à-dire qu'elle permet une très grande diversité et elle est quelque chose de caché à travers cette diversité. Mais il faut que cette diversité vive de l'unité. Autrement, elle ne serait plus. C'est le danger. On va aller très très loin dans la diversité pour montrer qu'on est un esprit large, sans étroitesse, pour lutter contre l'uniformité. Et alors à ce moment-là, on va tellement loin qu'il n'y a plus d'unité du tout. On ne se reconnaît plus comme frère, d'un même père. On dit, il y a dû avoir des secousses apocalyptique, pour voir les couches différentes. Première série, deuxième série, troisième série. Non, il faut accepter qu'il y ait des petits tournants dans la marche de la congrégation. C'est normal. C'est un signe de vie. Si on répétait exactement ce qu'il y avait au point de départ, ce serait impossible. C'est absolument impossible. Retour. ici voyait ce qu'on vivait à Fribourg. Ça n'aurait pas de sens. C'était pas le désir de Marthe. Ça m'a beaucoup frappé. Marthe voulait qu'on puisse se réunir dans une maison. Elle le disait. Quand on lui a dit qu'à Fribourg, il n'y avait pas moyen, elle m'a dit tant pis, mais le plus vite possible. Et c'est vrai. Il y a une unité qui doit se faire. Elle se fait, elle se fait. Et elle est forte. Il faut qu'elle soit encore plus forte. Il faut qu'elle y aille encore beaucoup plus loin. Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie. Il faudrait qu'on puisse vraiment dire que jamais un frère ne dit du mal de son frère. Hein? Ça serait le signe caractéristique. Et que s'il a quelque chose contre lui, c'est à lui qu'il va le dire. Et jamais à un autre. Ah, il peut le dire à un autre, si c'est son père spirituel, si c'est son père maître, il peut le dire à un autre, alors, ou son prieur, pour savoir si c'est opportun, savoir si c'est bien. Je parle là de critique. On ne doit jamais faire ça. On doit les aimer trop. Alors, on ne peut pas les critiquer quand on les aime, de cette manière-là. Je crois que c'est très important pour nous de tendre vers une unité toujours plus parfaite. Voyez la première épître de Saint Jean. Hein. C'est l'épître de la charité fraternelle. Et ça, c'est le désir très intense de Jean. La charité fraternelle, c'est cette famille à l'intérieur de la grande famille. C'est cette famille que Dieu veut réaliser à travers la grande famille de l'Église. Mais il veut réaliser une famille. Et Saint Jean doit être une famille. Il doit être dans l'Église, la famille, j'allais dire, la plus unie, doctrinalement, parce que c'est important pour nous, doctrinalement et affectivement, non pas sensiblement, on retomberait dans l'uniformité, non pas d'une façon artistique, non, qu'il y ait des goûts différents dans la communauté au point de vue artistique, tant mieux. Le tout, c'est que la charité dépasse ça. Et qu'on arrive à faire une œuvre commune même si les goûts artistiques sont différents. C'est tellement d'importance. Et je dirais que Dieu met exprès des goûts différents.